Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous visitons le château du capitaine Fracas qui se trouve dans les Landes. Ensuite, on découvre la variété des métiers de l'artisanat par le biais de web vidéo. Et enfin, on s'intéresse à la façon dont on va s'occuper de nos animaux de compagnie cet été avec une plateforme de la fondation 30 millions d'amis. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce mardi 4 juin. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tornier. Bonjour à tous.
Le site des impôts a connu un bug hier soir qui s'est prolongé dans la matinée.
D'où cette annonce du ministre de prolonger de 2 jours le délai pour déclarer ses impôts, du moins ceux qui sont concernés à partir du département 50.
Un bug qui intervient au moment où les comptes publics lancent Oups, le site internet du droit à l'erreur.
Oups, comme Oups, j'ai oublié quelque chose, Laetitia Ovelin.
Oui, mais si j'ai oublié quelque chose, il ne faut pas s'attendre à pouvoir modifier quoi que ce soit sur ce nouveau site.
La grève dans les urgences prend une nouvelle tournure.
Des urgentistes ne sont pas venus à l'hôpital de la Riboisière cette nuit à Paris, ils étaient en arrêt maladie.
À 2 jours du D-Day, le jour J du débarquement, nous sommes dans le Cotentin.
Là où un match de football américain qui devait se jouer en 1944 à Reims et qui avait été reporté suite au combat a eu lieu hier.
C'est la fête des Bleus ce mardi, les Bleus au masculin et au féminin.
Emmanuel Macron va saluer les filles à Clairefontaine à 3 jours de la Coupe du Monde et décorer les garçons après leur titre mondial de l'an passé.
Sur ce, bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farouf sur France Bleu.
Et attention aux orages dans le nord de la France. Météo France a placé 18 départements en vigilance orange aux orages, à la grêle et au vent violent.
Des Hauts-de-France à une partie de la région Grand Est, sur l'Île-de-France et le nord de la Bourgogne.
Il est très fortement conseillé de déclarer ses impôts sur Internet, mais parfois, ça coince.
C'est ce qui s'est passé hier soir. Un écran noir en lieu et place de impots.gouv.fr à quelques heures de l'heure limite pour les départements à partir de 50 jusqu'à Mayotte.
C'est la faute de la météo, comme disent les finances publiques, ou au sous-investissement informatique évoqué par les syndicats?
La responsable de la mission prélèvement à la source explique que les Français ont profité du beau temps du week-end de l'Ascension et se sont connectés trop nombreux au dernier moment. Marie-Vonne Le Brignonen.
C'est vraiment un phénomène de pic assez traditionnel, mais qui là a pris des proportions très importantes, liées effectivement vraiment à la météo du week-end, puisque tous les ans, on constate qu'il y a quand même une corrélation entre le nombre de déclarations et la météo.
Le syndicat Solidaire Finances Publiques se pose, lui, la question du budget pour les moyens informatiques du ministère. Vincent Drezet.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quels ont été les moyens budgétaires. Savoir si dans le sous-investissement informatique que déplore la Cour des comptes, si le système de la déclaration en ligne est en question ou pas. Aujourd'hui, c'est une question sans réponse, mais évidemment, avec ce qui s'est passé hier, on ne peut que se la poser.
Les contribuables ont donc un répit de 48 heures pour déclarer leurs revenus jusqu'à jeudi minuit après ce bug que l'on peut traduire par une interjection comme « Oups ».
Il se trouve que le gouvernement lance aujourd'hui même un nouveau site sur le droit à l'erreur baptisé « Oups ». Alors sur le clavier, il faut taper « oups.gouv.fr ».
C'est ce que vous avez fait ce matin, Laetitia Ovelin. Je vous ai entendu râler. Ça ne marchait pas?
Ça marche, mais j'avoue, oui, j'ai râlé. Parce qu'en fait, on n'y trouve pas vraiment grand-chose sur ce site. Juste une série d'erreurs possibles quand on part à l'étranger, quand on déclare ses impôts, quand on déménage. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, c'est bien expliqué.
Qu'est-ce que nous allons trouver sur ce site? La liste des erreurs les plus fréquentes que nous rencontrons dans nos démarches administratives et surtout... Nous trouverons des conseils pour les éviter. Malin ?
Voilà, une liste d'erreurs, des conseils, et puis c'est tout.
Oui, mais Laetitia, on a quand même, rassurez-nous, des informations précises, des formulaires à remplir pour signaler qu'on s'est trompé ?
Non, pas du tout. Si on a de la chance, on peut cliquer directement sur un lien, celui de la CAF par exemple, dans l'onglet déménagement pour signaler une nouvelle adresse, mais ça se cantonne à un renvoi sur la page d'accueil de la CAF, c'est tout. Imaginons par exemple, j'ai oublié de déclarer un cumul emploi-retraite.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Oups m'indique qu'il faut que j'adresse un courrier écrit à ma caisse régionale. L'adresse, je la trouve sur le site l'assurance-retraite.fr. Mais là, on peut même pas cliquer sur le lien.
Voilà. Ouais, mais c'est tout de même en lien avec la nouvelle loi sur le droit à l'erreur.
Oui, elle date de l'été dernier. Si on prouve qu'on est de bonne foi, qu'on a voulu rectifier, on ne sera pas sanctionné la première fois parce que les sanctions peuvent être lourdes, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement au maximum, 45 000 euros d'amende pour une fraude aux cotisations sociales. Mais attention, le droit à l'erreur n'est pas un droit au retard. Déclarer ses impôts, par exemple, en retard, c'est bien synonyme de sanction.
Le site Oups peut mieux faire, donc merci.
Oui.
Laetitia Eveline.
Les cheminots sont appelés à manifester cet après-midi à Paris contre la réforme ferroviaire et la dégradation du climat social dans l'entreprise.
La CGT, l'UNSA ferroviaire, Sudrail et la CFDT dénoncent la mauvaise réforme nuisible et mal préparée. Les perturbations concernent les Hauts-de-France où un TER sur deux circule et la région Centre-Val-de-Loire avec un TER sur cinq en service. Trafic normal, dit la direction de la SNCF, pour les TGV intercités Transilien, Eurostar et Thalys.
Les urgentistes en grève ont franchi un palier dans la manifestation de leur mécontentement.
Habituellement, ils portent un brassard et assurent leur service. Cette nuit, à l'hôpital de la Riboisière à Paris, ils ne sont pas venus. Une vingtaine de personnes des urgences, selon la CGT, s'est mis en arrêt maladie. La ministre de la Santé n'apprécie pas la méthode, Agnès Buzyn.
Ils se sont mis en arrêt maladie. Ça, je pense que c'est dévoyer ce qu'est un arrêt maladie. Ça n'est pas bien parce que ça entraîne une surcharge de travail pour les autres, pour les pompiers. Nous l'avons vu à Lons-le-Saunier. Ce sont les ambulanciers, ce sont les pompiers, ce sont la médecine privée, les médecins libéraux qui ont pris en charge tous les patients. Et donc, en réalité, en faisant cela, on accroît la fatigue des autres. Donc aujourd'hui, je cherche des solutions, je travaille avec les urgentistes, je réfléchis aux urgences de demain, je les reçois régulièrement et je les verrai encore d'ici une quinzaine de jours pour préparer l'été. Donc tout cela est évidemment pris en compte, je comprends l'impatience, mais derrière, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Nous sommes totalement mobilisés pour améliorer la situation. Nous attendons les prochaines générations de médecins urgentistes qui sont en train d'être formés. Il y en a 400 par an et ils vont arriver sur le terrain.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ce matin sur France Inter.
Une cinquantaine de services d'urgence est actuellement touchée par un mouvement de grève pour l'arrêt des fermetures de lits, une hausse des rémunérations de 300 euros net et une augmentation des effectifs. Une journée nationale d'action est prévue jeudi.
Si vous jetez un papier dans la rue, un mégot ou si vous crachez, vous pouvez payer une amende, mais vous serez certainement surpris si au moment où vous commettez cette incivilité, une voix sort d'un haut-parleur.
Monsieur ou madame, veuillez ramasser ce que vous venez de jeter par terre. Et voilà le genre de message que les habitants de hier vont bientôt entendre dans le jardin public après déjà des expériences à Mandelieu, au Canet, à Toulouse ou Argenteuil.
On est libre un petit peu de faire ce qu'on a envie, c'est dommage d'être un peu fliqué comme ça, mais bon. C'est vrai que ça a un côté assez respectueux aussi pour les gens qui ne font pas attention aux choses. Moi je sais que je fais assez attention, donc c'est vrai que ça peut être intéressant quand même, voilà. Mais je pense que ça a certaines limites. En collectivité, avec beaucoup de gens autour, voilà, un papier qui tombe par terre par inadvertance, on ne sait jamais, d'être repris comme ça par un haut-parleur devant, je ne sais pas, des dizaines de personnes, c'est pas top.
C'est bien, mais c'est pas top la caméra de vidéosurveillance parlante avec France Bleu Provence.
13h08 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est du football et du football américain. Le football avec la journée d'Emmanuel Macron qui rend visite aux Bleus, les filles qui préparent la Coupe du Monde et les garçons qui sont décorés de la Légion d'honneur après leur titre mondial. Le football américain, c'est cette rencontre jouée par des soldats, des parachutistes de l'armée américaine présents pour le 75e anniversaire du débarquement.
Cette rencontre, prévue le 24 décembre 1944 à Reims, annulée suite à la reprise des combats, s'est jouée à Saint-Hilaire-Petitville dans la Manche. Les enfants de l'école maternelle ont chanté la Marseillaise avant le coup d'envoi et c'est la petite fille du général George Patton qui a chanté l'hymne américain, Ellen Patton. Les soldats américains qui ont joué au foot américain étaient évidemment émus, le sergent-major Thomas Cohn.
C'est une expérience incroyable pour nos soldats. Voyager jusqu'ici, jouer au football, honorer ce match de Noël 44 qui n'a jamais eu lieu, tout ça sur ces terres normandes défendues par nos grands-parents et arrière-grands-parents. C'est incroyable pour ces hommes de participer à tout ça, surtout pour beaucoup. C'est la première et peut-être la dernière fois qu'ils viennent ici. Ça leur permet de se reconnecter à ces moments, de vivre le 75e anniversaire du débarquement, de se rappeler de cette histoire et du combat de nos ancêtres. Le football américain, c'est l'un des passe-temps favoris chez nous, c'est très populaire. Et dans l'armée, on aime beaucoup se réunir et se défier au travers de ce sport.
Vous pouvez voir des photos et des vidéos de cette rencontre de football américain sur francebleu.fr. Simon de Foncauprès de France Bleu Cotentin.
C'est une journée en bleu pour Emmanuel Macron. Il est à Clairefontaine en ce moment à la rencontre de l'équipe de France féminine à 3 jours du début de la Coupe du Monde en France.
Une visite présidentielle qui a son importance pour la gardienne des Bleus, Sarah Bouhadi.
Ça représente beaucoup. Déjà, on va représenter notre équipe, notre nation durant cette Coupe du Monde. On a la chance d'avoir la visite du président de la République. Ça veut dire beaucoup parce que voilà, prendre le temps de venir nous rencontrer, saluer l'équipe nationale, ça met un petit peu de pression parce que ça veut dire qu'il compte sur nous aussi pendant cette Coupe du Monde. Mais voilà, va falloir prendre bien ce rendez-vous au sérieux et prendre plaisir aussi parce que ça arrive pas tous les jours de rencontrer le président de la République. C'est un compétiteur, un sportif, donc forcément, je pense que quand il regarde du foot ou qu'il regarde son équipe qu'il admire dans le foot, il aimerait qu'elle gagne. Donc voilà, il va nous donner des mots qui vont être importants, symboliques, et on va essayer de pas le décevoir et aussi pas se décevoir nous-mêmes.
De retour à l'Elysée, le chef de l'État va recevoir dans l'après-midi les Bleus de Deschamps cette fois et va leur remettre la Légion d'honneur. C'était prévu après le titre de champion du monde en Russie en juillet dernier.
Les footballeurs seront sur leur 31. Ils porteront d'ailleurs un costume confectionné spécialement pour l'occasion, Sophie Auvigne.
C'est le costume deux étoiles, un costume Smalto, l'habilleur officiel de l'équipe de France depuis 2013. Bleu, évidemment, Valérie Tondon-Durbecq, directrice générale de Francesco Smalto International.
Cette tenue, c'est un costume taille ajustée qui a été réalisé au sein de l'atelier de la maison Smalto. Et là, on a rajouté des détails. Les deux étoiles côté cœur intérieur de la veste, toujours sobriété et chic. Et on a la milanaise où va être apposée la Légion d'honneur.
Cet après-midi, 70 hommes porteront ce costume, l'entraîneur Didier Deschamps, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, et puis bien sûr tous les joueurs après un ultime essayage à Clairefontaine. C'était la semaine dernière avec Jean-Luc Amsler, directeur artistique de la maison Smalto.
Ce sont des hommes absolument bien faits, ce sont des vrais sportifs qui ont une taille absolument parfaite, donc c'est un régal de les habiller puisque c'est des proportions impeccables. Des épaules, une taille très fine, idéal pour porter un costume classique, quoi. Il y en a qui sont un peu plus musclés que d'autres, qui sont un peu plus forts. Alors on élargit un petit peu le pantalon, mais c'est pas ça qui va gêner vraiment la silhouette.
De la chemise bleu nuit à la cravate deux étoiles, chaque pièce est également proposée au grand public dans l'espoir d'attirer une nouvelle clientèle et surtout beaucoup plus jeune.
Les Bleus en costume à l'Elysée cet après-midi, Sophie Auvigne.
Roland Garros se poursuit sans Français.
Mais avec des Suisses. Federer, Wawrinka cet après-midi en quart de finale et Nadal, Nishikori avec à la clé une possible demi-finale. Nadal Federer.
Ça serait bien. On va découvrir le château du capitaine Fracasse tout à l'heure, un château qui se trouve dans les Landes. Celui qui a servi de décor au roman de Théophile Gautier, adapté de très nombreuses fois au théâtre et au cinéma.
Comme en 1961, dans la version Fracasse, avec Jean Marais, Philippe Noiret, Jean Rochefort et Louis de Funès qui apparaît dans cette scène.
Y a-t-il des hommes dans la rue ?
Dans la rue.
Alors regarde !
Ils venaient pour m'enlever. Ils sont au duc de Valombreuse.
Allez, bon, vas-y.
Vous ne direz rien à Fracasse. Il s'attirera encore une mauvaise querelle.
Je suis d'avis qu'il faut plier bagages et aller voir ailleurs ce qui se passe. Et si les choses vont se gâter ?
Le château du capitaine Fracasse dans les Landes au nord-ouest de Mont-de-Marsan, le château du roman de Cap et d'Épée de Théophile Gautier.
Et on poursuit avec un plateau de fromage, le plus grand plateau de fromage au monde, homologué par un huissier du Guinness Book des Records.
161 mètres de long, 3 tonnes de fromage.
J'ai faim, mais quand même pas ce point-là.
Présenté en Touraine, Yvan Plantet.
Ce qui contribue aussi à ce record, c'est la variété de fromages présents. Au total, près de 1100 fromages. Ils viennent principalement de France, mais pas que, d'après Rodolphe Lemeunier, le fromager à l'origine de cette idée.
30 pays de représentés, on a trouvé des fromages d'Israël, de Russie, du Japon, de Thaïlande, Vietnam.
Et même parmi la cinquantaine de bénévoles qui viennent l'aider, les nationalités sont diverses, à tel point qu'il est obligé de ne parler qu'en anglais.
You put the soft cheese directly here, very important.
Japonais, américains et même belges, tous sont côte à côte avec leur fil à couper du
Pays Basque, Pyrénées,
Osorati,
Edam,
Mimolette.
Et parmi ces quelques fromages, vous aurez peut-être reconnu des marques que l'on trouve en grande distribution, souvent à base de lait pasteurisé, considéré moins goûteux. Mais cela ne gêne pas Rodolphe Lemeunier.
Ici, on ne veut pas entendre parler de guéguerre entre les laits crus et les laits pasteurisés. Au Mondial du fromage et sur notre plateau, on est très fiers de mettre du lait cru, du lait pasteurisé, des fromages fermiers, des fromages industriels. C'est pas un problème pour nous.
Pasteurisés ou au lait cru, cela ne semble donc pas gêner les Tourangeaux, puisqu'ils étaient près de 1000 à avoir réservé leur billet pour une dégustation.
Yvan Plantet à France Bleu Touraine, vous avez déjà goûté du fromage russe, thaïlandais ou vietnamien?
Non, Frédéric, mais de la mimolette, oui, comme dans le sujet qu'on vient d'entendre.
It's very important.
Very. Yeah. Après la Touraine, nous allons dans les Landes et en Bretagne. Et
sur les traces du capitaine Fracas et à la découverte d'artisans.
Oui, mais ce sera avant les préparatifs de l'été avec nos animaux de compagnie. Ça s'appelle Vacances entre amis.
Nos 30 millions d'amis. Voici la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.